obligé d'abord de vous demander votre indulgence parce que je serai obligé d'utiliser, je dirais, une méthode régressive partant du présent pour aller vers le XVIIe siècle. Et cette méthode a l'inconvénient majeur de m'obliger à faire des allusions à des choses tout à fait actuelles. Je veux dire par là que nous ne pouvons pas nous abstraire du fait que nous nous plaçons après Maastricht, après la PAC, après l'écu dont on parlait ce matin, et que nous sommes dans un système européen qui finalement n'est pas tellement conditionné par l'affaire de Maastricht, mais par quelque chose qui lui est antérieur de quelques années, c'est l'acte unique européen. Depuis l'acte unique européen qui a été décidé, vous le savez, entre 86 et 88, c'est la loi de la majorité qui l'emporte pour les grands problèmes européens, et non plus la loi de l'unanimité. C'est quelque chose de tout à fait fondamental, parce que on en a débattu à l'époque de Sully, à l'époque de l'abbé de Saint-Pierre, au début du XVIIIe siècle, au moment du traité d'Utrecht. C'est une affaire qui existe à toutes les époques, c'est de savoir s'il y a une supranationalité européenne qui estompe en quelque sorte l'autonomie des États. Et pour l'instant, ce qui a été tranché, c'est bien évidemment la supranationalité européenne. Donc dans le monde qui est le nôtre, le monde de l'Europe occidentale, nous avons à l'heure actuelle un effacement progressif des États. Il suffit de penser que le Conseil constitutionnel en France et le Conseil d'État ont accepté la supranationalité des décisions de Bruxelles et que c'est entre 30 et 40% de ce qui nous concerne qui, à l'heure actuelle, n'est pas décidé sur les berges de la Seine, mais à Bruxelles, à Luxembourg ou à Strasbourg. Ça, je crois que c'est un contexte obligatoire. En regard de ça, le mur de Berlin en tombant a révélé que l'Europe des nations n'est pas morte, qu'elle ressurgisse dans le sang et le bruit, aussi bien dans l'Europe balkanique que dans l'Europe centrale et orientale, et que par conséquent, le problème est loin d'être réglé de cette manière bruxelloise, technocratique partout. Simplement, il y a des créations actuelles qui sont probablement peu connues et beaucoup plus dangereuses pour les nations en Europe. C'est la création, par exemple, de l'Assemblée des régions d'Europe qui a été décidée en 85 et où on voit par exemple un ministre-président du Bade-Wurtemberg, qui est vice-président de cette Assemblée, déclarer que les États nationaux sont trop petits maintenant pour résoudre les grands problèmes et trop grands pour solutionner les petits. Ou bien la création d'un comité des régions qui est prévu par Maastricht. Et ces régions, ce ne sont pas ce que les gens ont souvent regretté, déploré, à savoir l'Europe des régions Länder allemands ou bien régions françaises. Il ne s'agit pas de ça, ce qui serait déjà gravissime, bien sûr, pour l'idée de nation. Ce qui est en train de se faire, ce sont des régions trans-États, à cheval sur plusieurs États actuels. Par exemple, il existe une région basiliensis pour Bâle, qui comprend Bâle, le pays de Bade et l'Alsace. Même si l'étiquette est latine, par un hommage rendu probablement au découpage de la Pologne qui avait cette langue comme langue nationale, ce qui est quand même de mauvais augure, ou bien une région européenne à l'heure actuelle transpyrénéenne se met en place entre l'Aquitaine, les deux pays basques, l'Aragon, et il y a à l'heure actuelle 50 milliards d'écus qui sont prévus pour 5 ans pour ces projets, ou bien une euro-région Languedoc-Roussillon, Catalogne, Midi-Pyrénées. Là, il s'agit de l'éclatement, il ne s'agit plus simplement de faire une Europe des régions qui serait incluse dans chaque État national, ce qui est déjà, je répète exprès, lourdement gravissime. Mais il s'agit de faire sauter complètement les vieilles frontières. Ça s'accompagne naturellement de prestations journalistiques que vous avez vues, c'est-à-dire que le président de la République française et Elie Wiesel ont fondé une Académie universelle des cultures qui a été inaugurée au Louvre en droit symbolique puisque c'est là que l'Académie française s'était installée à l'époque de Louis XIV, le 30 janvier 93, de 70 membres, chiffre symbolique naturellement, et François Mitterrand rappelle qu'il souhaite le métissage des cultures, formule qu'on a retrouvée à plusieurs reprises aujourd'hui. Ou bien l'ancien grand maître du Grand Orient de France, Jean-Robert Ragache, avec Jean Hellenstein, un de nos collègues, Haroun Taziev, Alain Touraine, crée une charte européenne contre la résurrection du nationalisme en Europe. Il y a donc des gens qui accompagnent philosophiquement tout cela. Alors je me suis demandé, puisque j'avais à traiter les fondements chrétiens de l'Europe des nations, je me suis d'abord tourné en catholique discipliné et un peu sot vers les évêques français. Et là, j'ai pas trouvé tellement de définition de la nation que je recherchais. Il s'agit surtout d'une hostilité, fondée d'ailleurs souvent, contre le nationalisme, et le dernier exposé de M. Auger nous montre toute la complexité du mot nationalisme. Je ne suis pas sûr qu'ils aient lu d'ailleurs les auteurs que lui-même a disséqués devant nous aussi savamment, mais c'est une hostilité systématique dans un but simple, c'est, et je résumerai des articles de Mgr Duval dans La Croix, des sept commissions de l'Épiscopat de février 92 sur un texte concernant la nation et l'immigration en France. Il s'agit d'une chose qui est très simple à résumer. L'idée nationale est hostile à l'intégration des immigrés à l'intérieur de la France. Je dis ça, et donc elle est mauvaise en soi, ça va sans dire, mais je dis ça parce que c'est un apport supplémentaire à ce que a dit M. Auger sur la complexité, n'est-ce pas, du vocabulaire tournant autour de l'étiquette de nationalisme. Alors, voyant que là, j'avais rien pour mon propos, je me suis tourné vers Rome, et là, j'ai trouvé des choses quand même plus réconfortantes. Par exemple, dans Pacem in Terris de Paul VI en 63, j'ai trouvé ceci: il n'appartient pas à l'autorité mondiale de limiter l'action des États que les États exercent dans leur sphère propre, ni de se substituer à eux. Bon, c'est clair et net. Quelqu'un de la secrétaire d'État, plus récemment, en décembre 91, l'expression « communauté des nations » correspond le mieux à l'idéal vers lequel le Saint-Siège souhaite que les sociétés de ce continent européen s'acheminent. Communauté des nations. Le synode des évêques sur l'Europe, il ne s'agit plus des évêques français, le synode des évêques sur l'Europe en décembre 91, les nations sont des réalités culturelles vivantes qui constituent l'expression de la richesse spirituelle de notre continent. Les différences nationales ne doivent donc pas disparaître, on doit au contraire veiller sur elles et les développer comme le fondement historique de la solidarité européenne. Il s'agit là de citations, j'en ai d'autres, n'est-ce pas, qui montrent bien que l'épiscopat français n'est pas, malheureusement ou heureusement, elle n'est pas solidaire de la vision des évêques en Europe. Alors, compte tenu de tout cela, je me suis dit qu'il fallait vous fournir une définition de l'idée de nation, mais j'avais travaillé naturellement sans en connaître les contributions très intéressantes que nous avons eues ce matin et cet après-midi, et j'avais préparé une définition de l'idée de nation que je soumets en priorité à M. Guillotel, puisqu'il nous a ce matin fait une sémantique tout à fait poussée de ce terme. C'est la définition suivante. La nation est une communauté stable, historiquement constituée de langues, de territoires, de vie économique et de formation psychique qui se traduit dans la communauté de culture. Vous seriez d'accord, M. Guillotet, mais je ne peux pas suivre cette définition. Pourquoi ? Parce qu'elle est Joseph Staline dans le marxisme et la question nationale. Vous savez qu'il a été commissaire aux nationalités. C'est là qu'il a commencé sa carrière. Et ça m'a tout de suite rappelé le vieux langlois Essing-Voss, c'est qu'il faut toujours prendre la loi du contexte, n'est-ce pas ? Et si on donnait cette phrase à beaucoup d'étudiants, ils diraient très certainement que c'est tiré d'un dictionnaire banal, Larousse ou autre, alors que c'est quand même de quelqu'un qui a résolu d'une façon dramatique, mais rapide, le problème des nationalités dans l'Empire soviétique. Après ça, j'ai des définitions maurrassiennes que je mets de côté parce que leur tourne et puis qu'elles ont été déjà utilisées. Et j'arrive, en remontant le temps, vers le XVIIe siècle, qui est pour plusieurs d'entre nous notre terrain de chasse. Et pour ce XVIIe siècle, il y a bien des auteurs comme Colette Beaune, comme Myriam Yardeni, qui ont étudié ce sentiment national, qui l'ont défini d'ailleurs de façon différente. Pour Colette Beaune, la nation c'est une race et son histoire se confond avec l'histoire de la dynastie. Il est bien évident que le mot race à l'époque n'a strictement rien à voir avec le racisme. Pour Myriam Yardeni, il y a d'autres caractères, c'est l'attachement au sol natal et à la fidélité portée au roi et au royaume. Je dirais que Myriam Yardeni correspond tout à fait à ce qui était dit dans la dernière intervention, c'est la difficulté d'isoler le sentiment national du principe monarchique, n'est-ce pas? Si on le fait, à ce moment-là, on entre vers les terres difficiles, dangereuses de l'abstraction politique, et on peut tomber dans des travers qui ont été dénoncés ici. L'importance de la langue également a été mise en évidence par ses auteurs. Il y a un premier sens au XVIIe siècle élémentaire, c'est le sens de province. Montluc, par exemple, parle des Gascons comme étant l'une des nations de la France. Et vous savez que Mazarin fonde le Collège des Quatre Nations, on a parlé des nations de l'Université de Paris, le Collège des Quatre Nations qui est destiné aux élèves des provinces qu'il a réunis au royaume pendant son grand ministère, c'est-à-dire Pignerol, bien petite province, mais l'Alsace, le Roussillon et puis la Flandre Artois. Ça, c'est un premier sens du terme, c'est la province, c'est la nation, avec, je dirais, une sorte des systoles et des diastoles, comme diraient les biologistes, c'est-à-dire que ça peut se développer jusqu'au niveau national et se rétracter, et au fond, c'est ce que j'ai cru comprendre dans l'intervention de M. Guillotel ce matin pour le sens du mot province, n'est-ce pas? Le terme de nation s'applique aussi à des minorités qui vivent sur le territoire du royaume. Par exemple, on parlera de la nation juive, on parlera de la nation française, au contraire, dans les échelles du Levant ou bien au Portugal. Ces idées de nation sont à mettre en rapport étroit avec l'idée de privilège, parce qu'il s'agit naturellement de protéger ces minorités, et on parle de cela pour l'ensemble, au fond, des minorités qui vivent sur un territoire étatique quelconque. Les voyages des Européens hors d'Europe au XVIIe siècle, et en particulier les relations des Jésuites sur les continents extra-européens, ont amené à penser naturellement aux nations autres, les nations qui ont des États, mais des formes d'États tout à fait différentes de la vieille Europe, comme les nations indiennes. Par exemple, le père Sagard, qui parcourt le pays des Hurons, parle des nations indiennes, et il voit bien qu'il y a là une espèce d'accointance entre la culture, la langue, les manières de toute façon, les manières de table, les manières de guerre, les manières de s'habiller, et l'idée de nation. Et ça montre bien aussi, pour certaines, que ça ne coïncide pas avec l'idée d'État. Par exemple, certaines tribus indiennes, bien sûr, quoi qu'on pourrait discuter, elles ont des formes étatiques primaires. Mais la Pologne va disparaître, ou bien elle réapparaît, et il y a bien une nation polonaise, alors qu'elle possède une culture certaine. D'autre part, il y a des auteurs prestigieux, qui n'utilisent jamais le mot de nation. Par exemple, Richelieu, dans son testament politique, Louis XIV n'utilise pas dans ses mémoires le mot de nation. Sauf une fois pour Richelieu, et ça tombe mal pour notre propos, parce que c'est pour critiquer la nation française qui est totalement incapable de fournir de bons soldats. C'est pas selon lui. Vous connaissez, c'est un passage célèbre, il n'y a pas de nation au monde si peu propre à la guerre, etc., etc. Alors, ils utilisent d'autres concepts, ils utilisent le mot royaume, état, couronne, puissance, maison, etc. Et ce sont des substituts, en quelque sorte, du mot nation, mais je crois qu'on peut les décrypter facilement. L'Europe chrétienne, l'Europe des nations et l'Europe. Qu'est-ce que c'est que l'Europe? Ce qui est intéressant, c'est que pour tous les géographes du XVIIe siècle, français, mais pas seulement français, l'Europe, elle coïncide avec la partie chrétienne. C'est-à-dire que les pays qui sont soumis aux Turcs, ils sont mis en quelque sorte entre parenthèses. Ils ne sont plus dans l'Europe. À partir du moment où ils sont musulmans, ils ne sont plus dans l'Europe. Et c'est au fur et à mesure de la reconquête chrétienne sur les Balkans qu'ils sont réintégrés, en quelque sorte purifiés, réintégrés à l'intérieur. J'utilise des mots d'ailleurs tout à fait impropres et dangereux, mais je n'ai pas fait attention. Et cette Europe, elle a des limites. Du côté de l'Est, c'est la Moscovie. De la même façon, suivant les auteurs et les époques, la Moscovie est intégrée dans l'Europe. Et puis petit à petit, quand des liens vont s'établir avec ces chrétiens orthodoxes, avec ces empires bizarres qui, pour les théoriciens de l'Europe occidentale, sont des États despotiques par rapport aux États occidentaux qui ne sont pas despotiques, qui sont une monarchie royale, eh bien, ils vont intégrer la Moscovie, et la limite de l'Europe, ce sera la Volga, ce sera le Don, etc., plus tard, l'Oural. Chez tous ces auteurs, il y a l'idée de l'excellence de l'Europe. L'Europe est représentée comme la reine de la terre de la vraie religion, d'abord, qui surpasse tous les autres continents très facilement. la race blanche l'emporte sur les autres races. Pas par un racisme d'ailleurs, mais par une constatation, si vous voulez, simplement du fait qu'elle est technicienne, qu'elle est chrétienne, etc. Et même certains des Européens pensent que la vraie religion pourrait disparaître en Europe, Saint Vincent de Paul le premier, et qu'à ce moment-là, elle se développerait dans des pays extra-européens. Et Saint Vincent de Paul pense que la religion chrétienne est perdue au XVIIe siècle. C'est pas pensons à ce qu'il ferait aujourd'hui s'il vivait parmi nous sur l'état des consciences actuelles. Ces récits de voyage ont permis, en tout cas aux Européens, de distinguer très soigneusement les originalités européennes concernant les structures familiales, les critères du beau, par exemple, la nature de l'urbanisme par rapport aux villes d'Orient, puisqu'il y a des jésuites nombreux, bien sûr, en Chine et aux Indes, pas seulement dans les pays amérindiens. Et ils ont vu les différences entre les gouvernements, la justice, etc. Donc ils ont une idée de l'Europe qui s'est faite de cette manière. Et ils peuvent placer les nations européennes par rapport à cette conception générale de l'Europe. Ces nations, si on les considère comme des États, alors, et non plus le sens général, elles sont hiérarchisées, au moins, par exemple, dans les traités des cérémonies vaticanes au XVIIe et au XVIIIe siècle. Il y a des pays, des États, des nations-États qui se battent pour avoir la préséance dans la salle royale du Vatican. Par exemple, Venise se bat, je dirais diplomatiquement, avec les princes et les électeurs pour arriver à leur niveau. La Hollande, bien que protestante, se bat pour être la première parmi les républiques. Naturellement, il y a une bataille permanente entre la France et l'Espagne pour être le pays qui l'emportera. Et l'Empire, généralement, a le premier rang, toujours le premier rang, en fonction de cette notion précisément impériale. Ça, si vous voulez, c'est la mise en place, je dirais, chez les auteurs, de la notion d'Europe et de la notion de nation, et même de nation au point de vue hiérarchie interne, à l'intérieur de l'Europe. Après ça, on peut se demander quelle est, puisqu'ils sont chrétiens, ils sont catholiques ou protestants, les orthodoxes étant très loin quand même, quel est le fondement scripturaire des nations. C'est une, je crois, une obligation, parce que si vous prenez des auteurs aussi différents que Grotius, Pufendorf, Hobbes, Leibniz, Doma, jansénisant, ou Locke, tous sont, avec des notes marginales ou infrapaginales, pleines de références scripturaires. Hein? Par exemple, le tiers du Léviathan de Hobbes, c'est l'Écriture sainte. Évidemment, chacun tire l'Écriture sainte de son côté et ne lui fait pas dire la même chose. Alors nous sommes obligés, je dirais, même si vous n'êtes ni chrétien ni catholique, vous êtes obligés, par conséquent, de vous référer à l'Écriture, puisque c'est le fondement de leur politique. Alors, la première idée qui surgit, c'est que la nation, c'est une descendance. Et quand on ouvre le livre de l'Exode, au chapitre 32, on voit que Dieu est révolté contre son peuple, puisque le peuple a adoré le veau d'or, et c'est Moïse qui arrive à apaiser le Seigneur. Et à ce moment-là, il y a cette parole de Dieu, « Je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays que j'avais promis, et il sera pour toujours leur héritage. » Et on trouve là les trois éléments d'Israël, c'est pas jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire c'est une loi, c'est la Torah, bon, après ça sera l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est un peuple et c'est un pays. Ce sont les trois éléments, il faut qu'il y ait une loi, c'est la loi de Dieu, complétée pour les chrétiens, bien sûr. Il faut qu'il y ait un peuple, et ce peuple a un héritage, et cet héritage, c'est une terre. Je crois que ce sont les trois éléments bibliques nécessaires. Alors, les références aux nations sont extrêmement nombreuses dans l'Écriture, ça va sans dire, et elles s'opposent toujours à Israël. Ça ne veut pas dire que le mot goïm, par exemple, est péjoratif. Il est peut-être venu par la suite, mais au début, Israël fait partie, d'ailleurs, des goïms, c'est-à-dire des nations elles-mêmes, n'est-ce pas ? Et souvent, elles sont représentées dans l'Ancien Testament, enfin dans la Torah, comme des ennemis irréductibles d'Israël, aussi bien que des alliés d'Israël. Il y a des alliances qui se nouent, qui se dénouent, etc. Et l'appel qui est fait par les prophètes, c'est que toutes les nations, quelles qu'elles soient, se prosternent devant l'Éternel et reconnaissent naturellement son caractère unique. C'est ça se complique avec l'arrivée du christianisme. Parce qu'à partir du christianisme, il y a au fond deux, c'est l'Y pythagoricien, n'est-ce pas ? Il y a deux voies possibles. Le baptême fait de tous les chrétiens des membres du corps du Christ qui sont incorporés à l'Église, ça va sans dire. Et dans la première aux Corinthiens, il y a du baptême naît l'unique peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance qui dépasse toutes les limites naturelles ou humaines des nations, des cultures, des races et des sexes. 1 aux Corinthiens 12, 13. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le nouveau peuple, le peuple de Dieu constitué, transcende toutes les différences des nations, des cultures. Simplement, il y a d'autres textes qu'on peut tirer de l'Écriture. Par exemple, dans Matthieu 25, 32, le Christ, à la parousie, rassemblera toutes les nations, il séparera les gens des uns des autres, tout comme le berger sépare les brebis des boucs. Donc les nations subsistent bien jusqu'à la fin des temps. Au moment de la Pentecôte, les gens sont très étonnés parce qu'ils entendent parler dans leur propre langue. Ils ne sont pas entendus parler en espéranto, en pidgin english, n'est-ce pas, ou dans d'autres langues. Parce qu'au fond, ça aurait pu se faire, pourquoi pas. Ils ont entendu parler dans leur propre langue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un retour matriciel, comme diraient certains de nos collègues, qui utilisent beaucoup ce vocabulaire, vers quoi ? Bah, vers la tour de Babel, avant la tour de Babel, pas du tout, n'est-ce pas ? C'est le progrès, c'est pas le retour en arrière. Donc il y a bien deux traditions. Et ces traditions, je dirais qu'elles se retrouvent dans le christianisme et dans le judaïsme. Par exemple, si vous ouvrez un classique du rabbin célèbre de Livourne, Elie Ben Amoseg, Israël et l'humanité, qui a été publié en 1914 et réédité souvent, il nous dit à propos des nations, chaque nation représentant une idée particulière, à part la même, sa raison d'être, son existence est légitime, son droit inviolable. Il faut ajouter que son perfectionnement rentre dans l'ordre cosmique et dans les desseins de la Providence. Enfin, le but auquel tend la constitution des nationalités paraît être leur organisation définitive dans une unité ou harmonie finale, mais j'ajoute, qui ne détruirait pas cette unité, la spécificité, n'est-ce pas ? Simplement, bien sûr, pour lui, puisque c'est un kabbaliste, il affirme que Israël est au cœur de l'humanité. C'est la représentation, d'ailleurs, organiciste traditionnelle qu'on connaît à travers les millénaires. Il y a un corps général des nations, Israël est le cœur, et puis les autres, ce sont les membres. Hein. Mais c'est au fond exactement la pérennité des nations qui est consacrée ici. On peut se demander maintenant quel est le rapport pour l'Église, alors, entre les nations et puis l'Église elle-même. Et à ce sujet-là, on doit aborder tout de suite, bien sûr, le rapport entre la monarchie absolue, puisque le XVIIe siècle, c'est son épanouissement, et puis la conception de l'Église. Alors j'ai ouvert des théologiens actuels comme Joseph Comblain, qui a fait un travail sur la théologie de la paix, publié en 1960 et réédité, qui semble être un auteur français, théologien connu. Il nous dit les catholiques sentent encore le poids de l'héritage des siècles d'absolutisme monarchique de l'époque moderne. L'alliance de l'absolutisme et de la religion dans les grandes nations catholiques nous a empêchés de développer le sens de nos responsabilités internationales. La paix et la guerre étaient du domaine absolu du prince, les sujets n'avaient pas autorité pour mettre en cause la politique, etc., etc. C'est-à-dire que pour Joseph Comblain, que j'ignore totalement par ailleurs, n'est-ce pas, mais qui me semble être un théologien un peu libéré de la libération, il semble affirmer que l'alliance de l'absolutisme et de la religion a été extrêmement mauvais pour la religion à cette époque. Alors, comme il faut se rafraîchir, je me suis rafraîchi avec un de nos auteurs favoris, qui est Cardin Lebray, en 1632, et qui est l'un des grands théoriciens de l'absolutisme, puisqu'il était mis en cause. Je me suis tourné vers celui qui a fait le grand traité de la souveraineté du roi. Et Cardin Lebray a cette phrase qui me semble aggravée dans le marbre. « Il y a une telle liaison et sympathie entre la religion et la patrie, l'Église et l'État, que comme la grandeur et la félicité de l'un dépendent de l'autre, aussi nous ne pouvons manquer au service de l'un que nous ne rendions coupable envers tous les deux. » Pour eux, il y a une liaison intrinsèque entre la patrie et la religion, l'Église et l'État, et la grandeur et la félicité de l'un tiennent à la grandeur et félicité de l'autre, c'est tout à fait différent de ce que Joseph Comblain, naturellement, nous enseignait. Au XVIIe siècle, comment peut-on fonder l'existence des nations qui sont déjà justifiées donc par la Bible, par l'Ancien et le Nouveau Testament ? Avec quand même ce que j'ai indiqué chemin faisant, c'est-à-dire que dans le Nouveau Testament, il y a ces deux courants, il y a un courant universaliste et un courant du respect des spécificités nationales. Alors bien sûr, on pourrait tout de suite m'objecter, il y a la vocation de Jeanne d'Arc. La vocation de Jeanne d'Arc qui est au fond la meilleure preuve par neuf de l'originalité des nations, puisque on aurait pu, Jacques Hertz n'est plus ici pour... me contredire, alors je m'avance sur un terrain un peu déminé, mais on aurait pu très bien affirmer que s'il aurait été bon, sub specie aeternitatis, d'avoir ce que la commission de Bruxelles approuverait, bien sûr, aujourd'hui, elle n'approuverait pas Jeanne d'Arc, elle approuverait un grand empire plantagenet allant de Bayonne jusqu'au mur d'Adrien en Angleterre, et dont la capitale aurait été vraisemblablement à Angers, puisqu'elle avait à côté son panthéon royal, ou au Mans, ou à Rouen. Pourquoi pas, n'est-ce pas ? On aurait pu imaginer ça. Ben non, l'Éternel ne l'a pas voulu, et Saint-Michel, son intermédiaire, on a eu Jeanne d'Arc. Alors c'est quand même un problème, ça ne se résout pas facilement, cette affaire-là. C'est une chose, mais je n'en parle pas par une raison simple, pas par mépris pour Jeanne d'Arc, bien sûr, et le Moyen-Âge, mais parce qu'au XVIIe siècle, c'est une sainte qui est relativement peu connue, n'est-ce pas ? Je pense, enfin, c'est pas quelque chose qui est très important. Alors, ce qui est très important, par contre, sur quoi est-ce qu'on peut fonder l'idée de nation ? Si on met entre parenthèses Jeanne d'Arc, quand même, pendant quelques siècles, ça va ressortir son culte, mais plus tard. Sur quelque chose auquel nos contemporains ne croient plus. Seulement, moi, j'ai la faiblesse de vivre avec quand même un pied au XVIIe siècle, et j'y crois, comme aurait dit le rabbin de Livourne d'une foi parfaite, c'est l'existence, puis il y croyait aussi d'ailleurs, c'est l'existence des anges. Alors, quand on parle des anges, naturellement, à la limite, on peut parler des saints, mais parler des anges devant des étudiants, il faut déjà quand même s'accrocher. Les gens du XVIIe siècle croient à trois choses. Il croit qu'il y a un règne animal, il y a un règne angélique, aussi diversifié, touffu, complexe que le règne animal peut l'être, puis entre les deux, il y a l'homme. Et ils y croient parce que c'est la révélation qui nous le dit, bien évidemment, à travers toute la Torah et puis les évangiles. Ils y croient parce qu'il y a des apparitions pédagogiques du monde angélique, bien sûr, Jeanne d'Arc, ça va sans dire, mais auprès de quantité d'autres gens. Mais ça, je dirais qu'à la limite, chacun ne les a pas vérifiés. Mais ils y croient aussi pour une logique interne, intrinsèque, profonde. C'est que si l'homme est composé avec une âme et un corps, il y a des tas de corps qui se promènent dans la rue, sont les chats et les chiens. Ça nous fait, c'est notre partie animale, mais par conséquent, si vous admettez qu'il y a une partie spirituelle, il faut bien qu'il y ait quelque chose au-dessus. Par conséquent, il y a trois mondes. Le culte des anges a été quelque chose, on va le voir, d'extrêmement important au XVIIe siècle. Puis, ce culte continue, bien sûr, il y a des fêtes des saints anges, etc., mais il s'amenuise, et il s'amenuise bien avant la crise des années 1960 que nous avons connue. Il s'en va très lentement, il disparaît très lentement, comme certains cultes, d'ailleurs, l'ont fait déjà depuis l'époque médiévale. Et alors là, je retrouve mon Y pythagoricien, c'est-à-dire les deux voies devant lesquelles les hommes sont placés. Il faut choisir entre les deux voies, ou bien les assumer toutes les deux, comme la grâce dans Bossuet, n'est-ce pas ? C'est l'affaire que Jean Danielou, le futur cardinal, dans son essai sur le mystère de l'histoire, a très bien montré. C'est un travail de 1953. Il nous dit qu'il y a cette doctrine des anges des nations. Chaque nation, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, mais surtout dans l'Ancien Testament, chaque nation a un ange protecteur, à qui Dieu a confié une mission, et les pères de l'Église ont été très nombreux à parler de cette mission des anges des nations. Avec le Christ, est-ce qu'il y a dépossession de ces anges ? Et là, il y a les deux thèses que je retrouve. La thèse d'Eusèbe, qui affirme qu'avec la fin du polythéisme, la division des nations est abolie, et le monothéisme généralisé par, je mets ça en français moderne, par le christianisme, entraîne nécessairement l'idée d'empire unique et de monde unifié. Disparition des nations, christianisme universel, l'empereur, n'est-ce pas, et adéquation entre les deux. Au fond, c'est Byzance, mais bien après. Hein. C'est la réalisation impériale. Puis après, le Saint-Empire romain germanique, etc., enfin, ça peut continuer à l'infini. Et il y a une autre thèse, c'est la thèse d'Origène. Ça n'est qu'à la fin des temps que l'Église pourra s'identifier aux nations réconciliées, réunies entre elles. Jusque-là, il y a la nostalgie de l'unité qui n'est pas concrétisée jusqu'à ce moment. Et par conséquent, la dislocation du système dans la spécificité, dans l'originalité et la richesse des nations doit continuer jusqu'à la parousie. Ce sont les deux voies, si vous voulez. L'une a donné l'idée impériale, enfin a sous-tendu l'idée impériale. L'autre, au contraire, a sous-tendu l'idée des nations. Ce culte des anges, qui est fondateur pour les gens du XVIIe siècle, parce que, si vous voulez, pour nous, nous allons naturellement prouver l'existence des nations par la sociologie, par l'économie, par des tas de choses scientifiques, etc. Pour beaucoup de gens, ils raisonnent d'une façon inverse. Ils se disent, puisque les anges existent, et j'en suis parfaitement convaincu, et que chaque nation a un ange, si cet ange est naturellement dans son immutabilité, il leur demande d'éloigner aux anges les pierres de la route, de guider vers le temple et de faire aboutir à la Jérusalem céleste le peuple de Constantinople, ce sont les protecteurs, Constantinople. Ça se trouve chez le Bérulle qui est au cœur de toute la réforme catholique, n'est-ce pas, et à l'origine de la réforme catholique du XVIIe siècle. Les anges, ce sont les premiers citoyens et les plus honorables de la ville avec lesquels nous devons traiter avant tout et le plus souvent. Et il y a des gens, par exemple des moines, qui se déplacent à travers la France, et Mabillon, par exemple, bien connu, notre père dans le domaine historique, si je peux dire, qui, à l'arrivée, il pérégrine à travers les dépôts d'archives en Europe, et quand il arrive devant une ville où il y a un monastère qu'il doit visiter pour voir ses archives, il s'agenouille avec son compagnon, et il prie les anges protecteurs de la ville, n'est-ce pas ? C'est quelque chose qui est tout à fait profond chez eux. Alors ça a été renforcé, cette idée des anges protecteurs, qui forment, je le répète, la spécificité, qui établissent la spécificité des nations, ça a été renforcé par la permanence pendant un millénaire d'une doctrine fondamentale qui est celle du pseudo-Denis. Le pseudo-Denis, complètement oublié aujourd'hui, plus encore que le culte des anges, c'est quelqu'un d'inconnu, comme le nom l'indique, et qui vivait probablement au VIe siècle en Syrie, et qui a donné un mélange du christianisme et des idées néoplatoniciennes, des idées de hiérarchie, et le pseudo-Denis, ses écrits sont entrés en France en 827, lorsque l'empereur d'Orient en a envoyé une copie qui a été déposée à Saint-Denis, et le Saint-Denis n'est pas seulement le Panthéon des rois de France, c'est aussi le conservatoire des régalias qui servent au sacre, bien sûr, et c'est le conservatoire, surtout, des écrits de ce que j'appelle le pseudo-Denis, mais qu'à l'époque on appelait Denis, puisqu'on pensait que c'était le premier évêque de Paris, n'est-ce pas, et en même temps le compagnon de Saint-Paul, et en même temps, troisièmement, trois personnages confondus, celui qui avait écrit les hiérarchies célestes. Alors, dans le système dionysien, qui dure jusqu'à l'époque de Bossuet, il y a un premier Bossuet qui y croit à la confusion des trois personnages. Il y a un deuxième Bossuet qui voit, avec les progrès qui ont été faits, n'est-ce pas, des sciences sacrées et historiques, qu'il ne peut pas y avoir de confusion et que par conséquent on a affaire à trois personnages. Et à ce moment-là, ça dégonfle complètement Saint-Denis, il faut bien dire, Saint-Denis en France. Tous ces écrits fondaient essentiellement l'idée de hiérarchie angélique qui existait dans le ciel, ce qui se trouve dans l'Apocalypse, dans Saint Paul, etc., n'est-ce pas, et qui est, je dirais, dans l'intérieur de la messe, dans le texte de la messe, les puissances, les trônes, les dominations, etc., la hiérarchie angélique, Et puis, cette hiérarchie angélique était la justification de la hiérarchie terrestre. Ça se trouve dans Florimond de Raymond, qui est le pourfendeur des hérétiques, et qui le dit très bien, et dans tous les auteurs, n'est-ce pas ? Il justifie l'idée de nation, et il justifie la hiérarchie sur cette terre. Puisqu'il y a une hiérarchie angélique, nous, on dirait presque l'inverse, n'est-ce pas ? On dirait, s'il y a une hiérarchie humaine, elle justifierait qu'il y ait une hiérarchie angélique. Ben, pas du tout. Il ordonne les choses dans un sens tout à fait différent. C'est renforcé par le fait qu'on voit les anges partout, je dirais dans l'iconographie. Le baroque, c'est, qu'il soit danubien, breton, enfin celui que Victor Lucien Tapier nous a enseigné dans notre jeunesse, c'est le baroque des anges. Il suffit de regarder ce qu'on appelle des gloires, c'est-à-dire le plafond, n'est-ce pas, des coupoles comme au Val-de-Grâce, ou bien dans quantité d'églises de campagne, il y a des nuées d'anges qui, de toutes les tailles, de toutes les formes, descendent autour de l'Eucharistie. C'est un festival d'anges. Par conséquent, ça n'est pas pour eux quelque chose à cette époque-là qui serait de l'abstraction comme ce que j'essaye d'expliquer maladroitement ici. C'est la justification profonde par le fait qu'ils l'ont constamment devant les yeux. En face de cela, en face de cette réalité des nations justifiée de cette façon par l'Écriture sainte, Ancien et Nouveau Testament, justifiée par le culte des anges, qui pérennise en quelque sorte les nations, il y a des forces qui s'y opposent. C'est l'hégémonisme et c'est le cosmopolitisme. Contradictoires l'un comme l'autre, vis-à-vis de l'autre, n'est-ce pas, hégémonisme et cosmopolitisme, mais qui sont l'un et l'autre hostiles à l'idée de nation. Alors, l'hégémonisme, c'est bien sûr l'aspiration à l'empire universel. C'est Charles Quint, repris par les souverains espagnols après, et surtout par les Habsbourg d'Autriche. C'est aussi ce qui apparaît dans des écrits, par exemple, d'utopistes comme Campanella au premier XVIIe siècle. Campanella est vagabond éternel qui est venu de Naples, qui est un dominicain en rupture de banc, qui a fait un ouvrage utopique comme l'utopie de Thomas More, qui a étant à Paris réfugié, a annoncé le nouveau Louis XIV, un peu comme Virgile annonçait, n'est-ce pas, l'arrivée de quelqu'un qui sauverait le monde. Et Campanella n'a jamais pu se dégager de l'hégémonisme. C'est le type même de l'homme qui est resté dans l'hégémonisme. Au début, il est l'admirateur de l'Espagne, et il demande, dans la monarchie hispanique, au début, tout à fait au début, c'est 1603 ou 1604, je ne me souviens plus, enfin c'est cette date-là à peu près, il demande dans la monarchie hispanique que l'Espagne prenne la tête du monde tout entier. Et puis comme il est passablement hérétique, il va passer une vingtaine d'années dans les prisons espagnoles à Naples, ça lui a fait changer les idées, il réussit à s'enfuir, il vient en France, et en France il va offrir la couronne du monde dans la monarchie des nations en 1635 à la France. Retournement total, mais il n'a pas pu se dégager de l'hégémonie, simplement il l'offre sur un plateau, si on peut dire vulgairement, à l'Espagne, et puis après il l'offre à l'ennemi de l'Espagne. Lui, il est englué, n'est-ce pas, à l'intérieur de cela. Et puis en face, alors, il y a, je dirais, le cosmopolitisme qui vient des humanistes. Par exemple, la chambre de la signature par Raphaël au Vatican, dans les appartements de Jules II, le thème central, n'est-ce pas, qui est platonicien et chrétien à la fois, c'est encore un accord des deux, il est pénétré par le milieu romain de l'époque, du début du XVIe siècle, c'est le renouvellement d'un monde unifié sous le signe de l'Église, avec Rome comme centre. Mais c'est un cosmopolitisme, c'est le premier courant, n'est-ce pas, c'est le courant qui vient d'Eusèbe, en quelque sorte, et qui se reproduit ici. Il faudrait voir simplement les intermédiaires que je n'ai pas. Et puis alors, l'autre courant cosmopolite, c'est le stoïcisme chrétien qui a été étudié si bien par le père Julien Aymard d'Angers dans de multiples articles, qu'il a malheureusement pas pu réunir, enfin faire une synthèse. Le stoïcisme chrétien qui se développe au XVIe siècle avec Juste Lips, avec beaucoup d'auteurs, qui dans une période très troublée, très difficile, de la guerre de 30 ans, où tout peut sombrer, n'est-ce pas, se rattache à Marc Aurèle, à Épictète et aux grands stoïciens antiques. Alors là, c'est du cosmopolitisme aussi, n'est-ce pas, parce qu'il y a l'idée que chaque homme a deux patries, la petite et la grande. Il y a l'idée également de l'impassibilité en face des luttes, en face de la communauté du genre humain. Il tire ça aussi du déoficiis de Cicéron, c'est la morale des comportements convenables. Il y a les idées de Marc Aurèle, ce qui n'est pas utile à l'essaim n'est pas non plus utile à l'abeille. Enfin, c'est l'essaim, c'est pas l'abeille. Il y a l'idée de sympathie universelle qui unit les hommes, c'est ce qu'il appelle Marc Aurèle le nœud sacré. Et on peut en tirer n'importe quoi du stoïcisme, aussi bien renforcer l'idée des chefs de guerre dans l'affrontement que, au fond, le gommage des nations réintégré dans ce grand ensemble que prônait déjà l'empereur philosophe. Nation justifiée par l'écriture, nation affrontée à l'hégémonie et au cosmopolitisme. Quelle est l'attitude des deux grands courants de la France du XVIIe siècle, philosophique et politique, en face de ça, c'est-à-dire les bons catholiques et les bons français? Les bons catholiques, ce sont les héritiers de la Ligue, au fond, n'est-ce pas? C'est-à-dire Marillac, qui d'ailleurs a été ligueur, limogé au moment de la journée des dupes, qui voit en 1630 le triomphe de Richelieu. Ce sont les gens qui se fixent sur la pensée de Bérulle. Quelle est la thèse des bons catholiques? C'est union du catholicisme international, au besoin en faisant la paix avec l'Espagne, au besoin peut-être, mais je vais peut-être trop loin, en se soumettant à l'Espagne. En tout cas, c'était le cas de la Ligue, n'est-ce pas? C'est peut-être moins celle de Marillac, mais enfin, ça l'est quand même. C'est l'Église catholique au-dessus de tout, la lutte complète contre les protestants à l'intérieur et à l'extérieur. La paix rendue aux campagnes françaises, parce qu'on est en train de les opprimer en augmentant sans cesse les tailles d'une façon indue, et il faut rendre la liberté aux Français. C'est la paix intérieure, et c'est ce que Richelieu ne peut pas faire. En face, il y a les bons Français, qui sont tous catholiques d'ailleurs et français, mais c'est le nom qu'ils se donnent ou qu'on leur donne. Les bons Français, eux, alors, c'est la thèse de la nation, et qui va être maintenant la nation armée à partir de 1635. Ce sont les gens qui se réunissent autour de Richelieu. Ce sont les gens qui vont être catalogués comme les tenants de la raison d'État, la raison d'enfer, la raison de Machiavel. On cite d'ailleurs jamais Machiavel, on dit toujours Tacite, n'est-ce pas, à l'époque, par précaution. Et ce sont ces gens-là qui veulent la guerre contre l'Espagne, contre les Habsbourg, avec les alliances de revers absolument impures, c'est-à-dire l'alliance avec les princes protestants allemands, l'alliance encore plus impure et abominable avec les Turcs. Vieille affaire depuis François Ier, n'est-ce pas, qui traîne tout le temps. Donc deux choses, l'une en face de l'autre. Ce qu'il faudrait décrypter, c'est incontestablement quelle est la défense, en quelque sorte, de l'idée de nation par les uns comme pour les autres. Il est très certain que pour les bons Français, il y a l'idée de nation, même si, par exemple, ils n'utilisent pas le mot de nation sous la plume de Richelieu, l'idée de la défense, en tout cas, de la nation incarnée par la gloire du roi. Et c'est le programme que l'on apprenait jadis, peut-être plus maintenant, aux enfants des écoles, n'est-ce pas, les trois ennemis, c'est-à-dire les grands à amoindrir, les partis protestants à diminuer. Et puis les Habsbourg également, formule très, très, trop raccourcie, parce qu'il a marqué beaucoup, Richelieu, il n'a pas eu ça tout de suite d'entrée de jeu dans sa tête, n'est-ce pas? Mais quand même, ce que Roland Mounier, dans son dernier Richelieu, a bien montré, c'est que la date charnière, c'est la date de 1620, quand Richelieu n'est pas assis. Mais quand il s'agit de savoir si on va appuyer l'empereur en Allemagne, alors que toutes les protestants se révoltent contre lui partout, n'est-ce pas, et qu'il est aux abois, ou est-ce qu'on le laisse tomber pour la gloire du roi? Mais naturellement, à ce moment-là, que vont dire les clercs? Que va dire l'Église à l'intérieur de la France? Et le premier choix qui a été fait par l'équipe qui était là au pouvoir, c'est d'aider l'empereur. Et puis après, bien sûr, il va y avoir le retournement, mais ça va demander quand même 10 ans, cela, n'est-ce pas? Ça va être après La Rochelle, Et en 1630, qu'il va y avoir le retournement pour aboutir à l'entrée en guerre de 1635. La politique française n'a pas été tout de suite facile et acquise de cette façon-là. Autre chose, je crois, à ajouter, il me reste quelques minutes, 7 ou 8 minutes, c'est le fait que on peut se poser le problème, s'il n'y a pas eu des raisons impures, impures du point de vue romain, bien sûr, au développement de l'idée nationale en France, c'est toute l'affaire du galliganisme. En France, se développe précisément à cette époque, dans les 30 premières années du XVIIe siècle, un courant gallican qui va irriguer jusqu'au XIXe siècle, au fond jusqu'à Vatican I, n'est-ce pas, qui va irriguer tout le monde français et périphérique contre Rome. Alors, il y a les grands Espagnols de la nouvelle scolastique, les Suarez, les Vitoria, et puis cette énorme stature de Saint Robert Bellarmin, le grand théologien jésuite, qui définissent des choses inacceptables pour les juristes français, pour le Parlement de Paris, à savoir que le pape aurait un pouvoir sur les rois, vieille affaire depuis le Moyen-Âge, de l'affrontement dont on parlait ce matin entre les papes et les empereurs, la querelle du sacerdoce et de l'Empire, et puis Philippe le Bel a rajouté par là-dessus, etc. N'est-ce pas ? C'est récurrent, et puis il y a eu Marcille de Padoue dans l'intervalle, enfin, ça existe à toutes les époques. Mais là, contre les champions du pape, qui affirment que par le fait que les souverains sont pécheurs, il y a le pouvoir indirect des papes sur les rois, à ce moment-là, il y a en face, il y a les Français, c'est-à-dire, il y a Pitou, le Troyen, n'est-ce pas ? Souvent, d'ailleurs, ces gallicans, faut le vérifier, mais en tout cas, pour Pitou, c'est sûr, sont des descendants de protestants, n'est-ce pas ? Sans que je fasse de lien de cause à effet. Parce qu'il y a aussi des protestants qui se convertissent, et puis il y a des séfarades qui deviennent le deuxième général des jésuites,
La Inès.
D'accord, je parle sous ta... ton contrôle hispanique. C'est certain que... et puis des inquisiteurs célèbres, par-dessus le marché. Donc on ne peut pas automatiquement faire des déterminismes simplistes. Mais c'est quand même réel, ça existe. Et puis il y a Richet, il y a Pierre de Marca, il y a l'article du tiers aux états généraux de 1614, où on affirme, n'est-ce pas, avant la déclaration des quatre articles de 1682, où on affirme l'indépendance totale du roi de France vis-à-vis de tout pouvoir sur terre, que ce soit l'empereur, n'en parlons pas, ça fait belle lurette, mais en face du pape. Querelle qui s'est envenimée, qui a entraîné le fait qu'on a brûlé par la main du bureau les ouvrages des Espagnols ou des théologiens romains, et qu'on a brûlé sur le corps de Ravaillac, Juan de Mariana, pas Juan de Mariana, mais son livre, qui était l'apologie du régicide, etc. Donc il y a un mouvement gallican qui incontestablement a amené à définir une indépendance plus grande, sans cesse plus grande, de la France en face du pouvoir qui peut la gêner le plus, parce qu'il y a, je dirais, autant cinquième colonne qu'il y a de clercs à l'intérieur de la France, potentiellement, je ne dis pas qu'ils soient tous ultramontains, mais enfin on pourrait le soupçonner, c'est quelque chose de fondamental. En face de cela, eh bien, il y a l'action, naturellement, qui va se développer aussi et qui va renforcer, je dirais pas le nationalisme, ce serait alors là tout à fait anachronique, mais l'idée nationale en France, c'est l'hostilité des périphéries. Quelque chose comme, par exemple, le Mars Gallicus de Jansénius d'Ypres, en 1635, l'année du déclenchement de la guerre, c'est un pamphlet anonyme, mais on sait que c'est Jansénius, ce qui entraînera l'hostilité immédiate de Richelieu contre Jansénius et ses descendants, n'est-ce pas, spirituels. C'est l'hostilité foncière des Espagnols, par l'intermédiaire de Jansénius, contre la France monarchique. On montre là-dedans l'utilisation de généraux protestants par Louis XIII, que les rois ne sont que des vicaires de Dieu au service de la foi, que les rois de France prétendent guérir par les écrouelles, mais que c'est complètement faux, qu'ils ne sont pas différents des autres rois, que la France n'est pas en état de légitime défense contre les Habsbourg, donc la guerre est injuste. Enfin, c'est un pamphlet épouvantable. Mais à l'autre bout, n'est-ce pas, il y a quelqu'un qui va faire un travail semblable, mais beaucoup plus tard, qui va se produire en 1681, 84, pardon, c'est Leibniz. Leibniz a voulu séduire Louis XIV dans un premier temps en orientant les forces de Louis XIV qui s'apprêtaient à la guerre de Hollande dans un projet extraordinaire qui est le projet égyptien. Il a proposé à Louis XIV de s'emparer de l'Égypte, nœud fondamental entre l'Orient et l'Occident, de devenir par là le premier dans la chrétienté. Ça fait tout à fait allusion, bien sûr, puisque Bonaparte reprendra ça et même connaîtra le texte à l'expédition d'Égypte. Et Louis XIV n'en tient absolument pas compte, bien que Leibniz soit venu à Paris, qu'il a connu les cercles politiques français de l'époque. Il n'en tient pas compte, il attaque la Hollande, il réduit la Hollande. Et puis il va y avoir plus tard, en 1684, alors la réponse de Leibniz dans le Mars Christianissimus, le Mars très chrétien, le dieu de la guerre très chrétien, qui est une attaque en règle contre Louis XIV. Et puis toutes les attaques qui ont été faites par les Hollandais, anciens alliés de la France, à partir de 1670, toutes ces attaques qui ont pu être faites, qui amènent naturellement les Français, je dirais, devant l'agression, à prendre davantage conscience d'eux-mêmes. Les Français sont quand même devant deux politiques. La politique des bons Français, toujours, qui existe à toutes les époques, n'est-ce pas, avec des héritages difficiles, parce que on ne peut pas dire que Fénelon soit directement héritier du premier XVIIe siècle, comme on a dit aussi que Louis XVI a été formé par la pensée fénelonienne. Donc il y a là un courant qui, je dirais, irriguerait l'histoire de France depuis le XVIe siècle et probablement plus haut, qui est le courant, au fond, catholique intégral. Hein, comme on a dit, nationalisme intégral, ce serait catholique intégral. Ils sont devant ce courant-là, puis il y a le courant en face, qui est le courant, non pas nationaliste, mais le courant, je dirais, des bons Français. Est-ce qu'il peut y avoir une conciliation, comme on cherche toujours, thèse, antithèse, synthèse? Eh bien, la conciliation, elle a été tentée par quelqu'un qui l'a vécu dans son corps, dans son âme, c'est le père Joseph. Le père Joseph, sur lequel il y a des tonnes de littérature plus ou moins bonnes, qui est un personnage extraordinaire, qui a été au départ quelqu'un qui a voulu incontestablement le triomphe de la puissance catholique, puisqu'il a prêché l'idée de croisade. Et l'idée de croisade est très présente au XVIIe siècle, n'est-ce pas, jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Et il a prêché l'idée de croisade, il a formé une milice chrétienne avec un prince de la maison de Gonzague-Nevers, il a fait le voyage à Madrid, à Rome, pour constituer cette milice, il a pris des contacts avec les Grecs. Le but était de reprendre la Grèce, et puis il y avait toujours la libération de deux pôles, Jérusalem et Byzance, enfin Constantinople, qui était dans sa tête. Et ça a échoué. Ça a échoué devant l'affrontement des nations, scandaleux aux yeux de l'Éternel, n'est-ce pas, entre l'Espagne et puis la France. Il a vécu cette contradiction, mais il est, il ne faut pas l'oublier, commissaire apostolique pour les missions étrangères. Il n'a jamais séparé ses idées de mission de son programme. Il est pour l'idée de croisade, même s'il ne peut pas. Et puisqu'il ne peut pas la faire, il fera à l'intérieur. La Rochelle, c'est une croisade. C'est la croisade contre les protestants à l'intérieur. Et puis c'est l'homme qui fait en même temps les négociations avec les princes protestants à l'étranger. C'est l'homme qui essaie de justifier sa conduite pour ses alliances protestantes. Et alors il a fondé un ordre spécial dans l'ouest de la France, qui subsiste encore petitement, mais enfin qui subsiste, qui est l'ordre du Calvaire. Et l'ordre du Calvaire a eu une fonction spéciale pendant toute son histoire, c'est de prier pour la France. Les religieuses du Calvaire sont faites, je dirais, pour ça. Et quand il va se lancer dans les négociations de Ratisbonne, où il sera désavoué d'ailleurs par Richelieu, parce que c'est en 1630, on ne sait pas ce que ça va donner, n'est-ce pas, le roi est en train de mourir, Louis XIII, à Lyon. Et puis il va ressusciter pratiquement, mais personne ne le sait, c'est peut-être Gaston d'Orléans qui va prendre le trône, et je vous rappelle que Louis XIV, il est né en 1638, hein. C'est-à-dire que pendant toute la période, nous on s'étonne de voir Gaston d'Orléans aussi puissant, ça prouve que tout simplement il est l'héritier du trône, alors inutile de dire le poids qu'il peut avoir, alors que le roi et Richelieu sont sans cesse malades. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il est perdu. Dans ses négociations, il va faiblir, ça ne lui est pas arrivé souvent, le père Joseph, il a faibli et il a accepté l'accord avec les Espagnols, il a accepté de replier toutes nos forces d'Italie du Nord et d'accepter, au fond, tout ce que l'Espagne souhaitait et les Habsbourg deviennent. Désavoué complètement par Richelieu, mais avant, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait été expliqué aux religieuses du calvaire sa politique, ce qui est quand même prodigieux, n'est-ce pas? Il les a réunies en chapitres, pas partout, parce qu'il y avait des monastères déjà qui étaient répandus un peu partout, mais en tout cas à Paris, puis sur les bords de la Loire. Il leur a expliqué sa politique très longuement, et il leur a demandé de prier pour ses négociations. L'ordre du calvaire a non seulement une mission de cette nature, mais les religieuses ont quelque chose dans leurs règles qui nous intéresse ici pour notre propos, curieusement. Elles doivent, une fois dans l'année, tirer au sort un bulletin. Et quand elles ont tiré ce bulletin au sort, qu'est-ce qu'il est écrit dessus? Il est écrit le nom d'une nation. Et elles doivent prier pendant toute l'année, celle qui est affectée à la nation en question, les anges protecteurs de la nation en question et les saints protecteurs de la nation. Alors si vous tirez, par exemple, en 1630-35, vous êtes religieuse du calvaire, par exemple à Angers, à Nantes, à Rennes ou à Paris, eh bien si vous tirez le bulletin, pas de vote, mais de prière, concernant la France, vous devrez prier toute l'année Saint-Michel, Saint-Denis, Sainte-Geneviève, Saint-Louis et les saints et saintes de France que je n'énumère pas. Si vous tirez l'Espagne, vous prierez Saint-Jacques, Sainte-Thérèse, parce qu'il faut concilier les deux saints, Saint-Laurent, Saint-Vincent et Saint-Dominique. Si vous tirez l'Angleterre et l'Écosse, eh bien ce sera Saint-Patrick, Saint-Thomas de Canterbury, et les autres saints, etc. Tous les pays européens, n'est-ce pas, sont ainsi énumérés. C'est un ordre qui a été fondé en rapport avec l'idée de nation. Alors, bien sûr, la France, je dirais, est au-dessus de tout, parce que dans cet équilibre, comme Georges Livet l'a très bien montré dans un petit livre très, très bon, excellent même, c'est l'idée de l'équilibre en Europe. Mais naturellement, l'idée de l'équilibre en Europe, on tire toujours la couverture vers soi. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui préside à cet équilibre. Et ce que Richelieu et l'éminence grise proposent au roi Louis XIII, c'est précisément d'être le primus inter pares, quand même à l'intérieur des puissances européennes. Alors les religieuses, bien sûr, elles ont quand même une prière spéciale pour la France, et puis après elles ont des prières pour chacun des pays, alors pour que les protestants de telle et telle région se convertissent, mais aussi pour l'achèvement, en quelque sorte, de la vocation chrétienne de chaque pays. Et puis alors, il y a le développement au XVIIe siècle français de plusieurs cultes nationaux. Pas Jeanne d'Arc, je l'ai dit, n'est-ce pas? Mais le culte de Saint-Louis renaît. Avec Louis XIII, bien sûr. Il renaît dans les années 1630 et il se développe, comme Alain Bourreau l'a bien montré, dans sa contribution sur les enseignements absolutistes de Saint-Louis. Il y a le développement du culte de l'enfant Jésus. Or, ce n'est pas une mièvrerie, le culte de l'enfant Jésus, du tout. Il a été développé au Carmel de Beaune, n'est-ce pas, par Marguerite de Beaune, pour d'abord favoriser, en quelque sorte, la protection de l'enfant, culte bérulien par excellence, n'est-ce pas, du XVIIe siècle, sur la France, et pour la naissance d'un dauphin toujours espéré. Et quand on a enterré Marguerite du Saint-Sacrement, enfin Marguerite de Beaune, on l'a enterré avec une statue de Louis XIV en bois, et quand on a ouvert pour son procès de canonisation ou de béatification le tombeau, on a retrouvé la statue qui est au Carmel de Beaune, une petite statue en bois qui, avec laquelle elle avait été enterrée, enfin ensevelie. C'est un autre culte qui est un culte de défense même militaire, n'est-ce pas? Quand les Espagnols arrivent à Saint-Jean-de-Laune, ils arrivent sur la Saône, ils sont empoisonnés en diable, ils peuvent percer les lignes, eh bien, c'est l'enfant Jésus qui protège. Alors, vous pourriez me dire, actuellement, il y a un scandale, c'est qu'on a le culte de la Vierge de Salamanque ou de Saragosse chez les Espagnols, et puis on l'a aussi à Paris. Est-ce qu'il y aurait plusieurs Vierges? Est-ce qu'il y aurait plusieurs enfants Jésus? Est-ce qu'il y aurait celui de Prague? Et puis, est-ce qu'il y aurait celui de Beaune? Il y a une conciliation, c'est de dire naturellement que Dieu veut précisément que chaque nation ait sa spécificité et son originalité. Ce n'est pas contradictoire nécessairement. Et puis couronnant le tout, et ça sera ma quasi-conclusion, c'est le développement de tout ce qui est autour du vœu de Louis XIII. Le vœu de consécration qui a été demandé par Louis XIII est sous-tendu par le Richelieu et le père Joseph. Alors le Prébalin, qui est l'hagiographe du Père Joseph, le manuscrit est conservé chez les Capucins à Paris, rue Boissonnade, Prébalin, qui veut naturellement presque faire monter le Père Joseph sur les autels, dit que c'est le Père Joseph qui a lancé l'idée du vœu, n'est-ce pas? Et puis Richelieu l'a repris, puis après le roi lui-même. Mais tout ça, c'est aussi à mettre comme soutènement de l'idée nationale en France, parce que n'oubliez pas quand même que le vœu de Louis XIII, c'est en 1636, c'est-à-dire la prise de Corbie. Il y a toujours les tertios chers à notre ami Jean-Paul Le Flemme, enfin qui ne sont pas tellement chers au cœur des Français de l'époque, n'est-ce pas? Et comment lutter contre eux? Ben, on lutte contre eux de différentes façons, et en particulier en se confiant à la Vierge. Voilà à peu près ce que à grande enjambée je voulais donner. Et puis comme conclusion, eh bien, je crois que la conclusion c'est de montrer que Marx a eu tort, quoi, dans tout ça, parce que si j'ouvre le manifeste du Parti communiste de 1848, je trouve que les ouvriers n'ont pas de patrie, on ne peut leur ravir ce qu'ils n'ont pas. Déjà les démarcations nationales, les antagonismes entre les peuples disparaissent de plus en plus avec le développement de la bourgeoisie, la liberté du commerce, le marché mondial, l'uniformité de la production industrielle et les conditions d'existence qu'ils entraînent. 1848, il faut dire que l'homme, n'est-ce pas, s'est quand même trompé quelquefois. En 1848, au moment où M. Auger nous a montré que c'est le plein développement des nationalités en Europe, les ouvriers peut-être n'ont pas de patrie, mais en tout cas les patries existent, et les démarcations nationales qui disparaissent, là, je ne crois pas que, ni à cette époque, ni aujourd'hui, dans l'univers de l'ex-Yougoslavie, les choses soient comme Marx les ait voulues. Et puis, en face de Marx, eh bien, permettez-moi de placer Pie XII dans Summi Pontificatus de 1939. Les nations, en se développant et en se différenciant suivant les diverses conditions de vie et de culture, ne sont pas destinées à mettre en pièces l'unité du genre humain, mais à l'enrichir et à l'embellir par la communication de leurs qualités particulières et par l'échange réciproque de biens, qui ne peut être possible et en même temps efficace que quand un amour mutuel et une charité vivement sentie unissent tous les enfants du même père et toutes les âmes rachetées par un même sang divin. Je crois qu'entre Marx et Pie XII, je choisirais quand même Pie XII, non seulement parce que c'est un saint pape, mais pour une autre raison, c'est parce que ça me semble beaucoup plus rationnel quand même que Marx. Je vous remercie.